Merci Georges. Je prie pour toi. Mais Seigneur, merci qu'après cette louange, nous pouvons entendre ta parole qui sera portée par Jean. Je te demande de le bénir, de lui donner toute l'autorité nécessaire que toi tu as prévue, Seigneur. Merci de l'encourager, de nous encourager et de nous bénir au travers de ces paroles. Que ton nom soit sanctifié et glorifié. Amen, Seigneur.
Et maintenant, mes frères et mes sœurs, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, et pour vous, cela vaut mieux. Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ, et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, je pourrais moi aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raison de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon pharisien et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste, créée par Dieu et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Êtes-vous satisfait? Pleinement satisfait? Satisfait de ce que vous avez? Satisfait de ce que vous êtes? En tout cas, Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, avait de quoi être satisfait de ce qu'il était. Membre du peuple élu, bien élevé dans une famille renommée, en parfait accord dans tout son comportement avec ce qu'il croyait, l'ayant reçu des maîtres spirituels les plus exigeants, les pharisiens, irréprochables, ose-t-il dire. Aujourd'hui aussi, on rencontre des hommes et des femmes qui sont satisfaits de ce qu'ils sont. Imaginons par exemple un certain Xanthias de Vaux. L'image n'apparaît pas. Je ne sais pas s'il faut. Voilà, Paul de Tarse, hein, hébreu, fils d'hébreu, et ainsi de suite. Et puis, Xanthias de Vaux, hein, vaudois, fils de Suisse, diplômé d'une haute école de relations humaines, expert en management, fondateur de la société philanthropique. C'est magnifique. Or,
qu'est-ce que Paul fait de tous ces avantages qui le satisfaisaient pleinement, je vous rappelle? Eh bien, il les met à la poubelle. Les déchets, ça se met à la poubelle, avec ou sans tri. Car un jour, Paul s'est rendu compte que ces satisfactions-là le coupaient du Christ et même faisaient de lui un ennemi du Christ. Car Jésus, de manière tout à fait inattendue, s'est manifesté à lui. Et alors Paul a compris que toute véritable satisfaction, toute justification viennent de ce Jésus, par pure grâce. Ce Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver du mal et de la mort. Xanthias, lui aussi, est invité à mettre ses avantages à la poubelle. Comprenons bien, il ne s'agit pas de nier ses origines, et encore moins de haïr sa famille ou son peuple. Paul, après avoir mis tout ça à la poubelle, a gardé pour son peuple un amour ardent, qui lui faisait même souhaiter parfois d'être maudit par Dieu et séparé du Christ, si cela pouvait servir au salut de ses frères. C'est ce qu'il écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 3. Mais il s'agit de ne plus faire reposer son assurance, sa satisfaction, sa justification sur tous ses avantages. Paul va inviter Xanthias, il invite aussi vous et moi à l'imiter. Il emploiera ce mot, imitez-moi. C'est-à-dire, nous sommes appelés à faire cette même démarche, ne plus faire dépendre nos joies et nos peines de nos racines sociales, ni de nos performances dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine physique, dans le domaine scientifique, dans le domaine spirituel. Notre salut, nos joies et nos peines ne doivent pas en dépendre. Il s'agit de les faire dépendre de Jésus seul. Voilà, à la place de ce qu'on a effacé, il y a aimé de Jésus-Christ. Et c'est là la seule raison que Paul, comme Xanthias, ont d'être satisfait, d'être content, d'être comblé, d'être justifié. Alors, si Xanthias venait à un de nos cultes, je pense que, comme nous, il dirait et il chanterait « Je n'ai qu'un seul désir, c'est de t'appartenir. Jésus, tu es tout pour moi, etc. » Voilà quelques paroles de nos cantiques. Et je ne doute pas de sa sincérité. Mais est-ce bien vrai pour Xanthias? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est authentique, ces déclarations? Eh bien, il y a pour cela des tests. Et pas besoin de recourir à un institut spécialisé, la vie courante nous fournit ces tests. Ça n'a rien d'extraordinaire. Par exemple, il peut arriver que Xanthias entende une remarque dévalorisante à son égard. Que se passe-t-il alors? Va-t-il s'effondrer? Je ne dis pas simplement avoir un petit pincement de cœur, ça c'est bien normal, nous sommes tous humains, mais va-t-il s'effondrer? Si c'est le cas, si Xanthias s'effondre, ben cela montre que le fondement de sa vie n'est pas le Christ, malgré tout ce qu'il a pu chanter. Le fondement de sa vie, alors, c'est la satisfaction de bien faire son travail ou son service. Puisque la moindre des critiques à cet égard fait qu'il est abattu et qu'il a l'impression de ne plus être bon à rien. Ou bien, autre exemple, imaginons qu'un collègue de Xanthias ou un frère l'a poussé hors du comité directeur de son organisation philanthropique, pour se mettre à sa place. Que se passe-t-il alors? Va-t-il se mettre à détester son concurrent et même à dénigrer cette fameuse organisation, puisque ce n'est plus lui qui la préside, Alors, si c'était le cas, Xanthias révélerait que son activité a pour lui une valeur absolue, qui ne souffre pas la moindre contestation. Il serait bien loin de tout fonder sur Jésus-Christ, et bien loin de l'exemple donné par Paul. Car, comme nous l'avons vu au premier chapitre de cette lettre, il y a quelque temps, certains frères, ou prétendus tels, annonçaient l'Évangile avec des intentions polémiques à son égard, dans un esprit de rivalité, tout content que Paul soit mis à l'ombre dans sa prison. Eh bien, comment Paul a-t-il réagi ? Mais voici ce qu'il écrit, que leurs intentions à ces gens-là soient inavouables ou sincères, le Christ est de toute façon annoncé et je m'en réjouis. Donc, pas d'effondrement, pas de haine non plus contre ces gens-là. Je m'en réjouis parce que le Christ est annoncé. Alors on le voit, lui, Paul, mettait vraiment Jésus au centre et Jésus était la source de sa joie. Il y a hélas encore d'autres possibilités de s'éloigner de cette vraie joie et de rechercher de fausses satisfactions. Paul en parle dans la suite de cette lettre. Au verset 15 du chapitre 3, « Nous tous, qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. » Quoi qu'il en soit, marchons ensemble, vous connaissez, marchons ensemble dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple, alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Je vous l'ai déjà dit souvent et je vous le répète maintenant en pleurant. En pleurant. Il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte, et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Qui sont ces gens qui ont pour Dieu leur propre ventre et qui se vantent de ce qui devrait leur faire honte ? Alors ici, les interprètes de la Bible que j'ai consultés donnent deux réponses différentes et même opposées. Les uns estiment que Paul vise des esprits religieux qui donnent une importance infinie à tous les rites, circoncision ou interdits alimentaires. Ils croient ainsi faire leur salut et rejettent la croix du Christ, la rendant vaine, parce que cette croix, c'est le seul moyen d'être sauvé. D'autres interprètes pense que Paul dénonce les prétendus chrétiens qui défigurent la liberté donnée par le Christ et qui poussent chacun à se laisser emporter par ses désirs, même les plus grossiers, puisque, disent-ils, on n'est pas sauvé par les œuvres, enfin tout est grâce, et puis on est libre. Eh bien, c'est à cette dernière interprétation que je vais m'arrêter. Surtout qu'il y a aujourd'hui, dans le grand public, et même dans les églises, un fort courant de pensée qui va dans ce sens. On prône l'épanouissement personnel, hein, c'est un terme à la mode, l'épanouissement personnel. Et parfois, l'on entend par là l'assouvissement de tous ses désirs sans aucun tabou, voilà un mot décrié aujourd'hui, hein, la moindre interdiction, le moindre commandement est appelé un tabou. Alors, il s'agit de rejeter tout ça et de n'exercer aucun contrôle sur soi-même. Voilà ce qu'on entend parfois par l'épanouissement personnel. Alors on prône l'authenticité. Et par là, on veut dire l'abandon à ses pulsions du moment, sans se sentir lié par les projets qu'on a faits, ni par les promesses ou les engagements passés. La fidélité est automatiquement suspectée d'hypocrisie. On se glorifie de ce qui devrait faire honte. J'en ai entendu un exemple dans une émission de télévision il y a quelques années. Le présentateur se pâmait d'admiration devant une femme. Et qu'est-ce qu'avait fait cette femme? Eh bien, elle avait abandonné son mari et ses deux enfants pour suivre un homme dont elle était tombée éperdument amoureuse. Quel courage! Oui, probablement qu'elle se sentait heureuse comme jamais, c'est bien possible, à condition qu'elle n'ait pas une pensée pour ceux qu'elle risquait de plonger dans le désespoir, la délinquance ou le suicide. Alors j'en ai assez dit pour montrer qu'une telle manière de vivre donne une fausse satisfaction. Il n'y a pas là de véritable liberté, mais au contraire, un esclavage, un asservissement à ses désirs du moment, un enfermement dans ses propres émotions qui coupe les relations profondes avec les autres. La vraie liberté est ouverture, respiration, réception de l'eau qui jaillit de la source éternelle et qui donne la force de construire avec les autres des relations fécondes. Et c'est ici que se trouve la vraie joie. Tout perdre, dit Paul, tout perdre pour gagner Christ. Son exemple nous engage à recevoir du Christ tout ce qui est vital pour nous. D'abord, la justice, c'est-à-dire le statut d'une personne pleinement acceptée par Dieu et lavée de tout mal. Cela n'est possible que par la grâce qui pardonne et renouvelle. Et ce n'est pas qu'un moment, celui de la conversion, stade initial de la vie chrétienne. Cela se prolonge dans toute l'existence. Il nous est donné la possibilité d'être unis à Jésus-Christ dans tous les moments de la vie. Jésus nous a parlé, disait-il, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11. Et Jésus nous assure que si nous sommes en relation vivante avec lui, nul ne nous ôtera notre joie. Paul est tellement ravi de l'amour débordant du Christ qu'il désire le connaître. Le connaître, en langage biblique, ça ne veut pas dire simplement avoir des idées justes sur lui. Le connaître, ça veut dire être intimement lié à lui, participer à tout ce qu'il a vécu, à tout ce qu'il a fait, à tout ce qu'il a dit. Et non seulement à son élévation dans la gloire, mais aussi à sa passion et à sa crucifixion. Nous pouvons relire ce qu'il dit au verset 10 et 11 de ce chapitre. « Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances, et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. » Est-ce que c'est là votre désir? Est-ce que c'est mon désir à moi? Franchement, moi, je ne désire pas souffrir. Quelque chose en moi s'oppose à une telle participation aux souffrances du Christ. Mais vous connaissez, nous connaissons des hommes, des frères et sœurs en Christ qui ont ce désir. Et nous pouvons penser en ce moment à Magdi Saber et à son épouse Anne-Lise qui sont retournés en Égypte malgré des menaces terribles qui pèsent sur eux. Maintenant, il va être convoqué au tribunal. Magdi risque la prison. Il est prêt à affronter cela et une photo de lui récente le montrait rayonnant. Donc, pour lui, il était prêt à participer aux souffrances du Christ. Mais ce qui m'aide, c'est que je remarque une chose étonnante dans ces versets. Jésus a commencé par souffrir, si on peut dire, puis il est mort, et puis finalement il est ressuscité. Mais Paul ne parle pas d'abord de la souffrance de Jésus. Paul mentionne d'abord la puissance de sa résurrection. C'est là ce que Paul désire en premier lieu. Eh bien, j'y vois une clé, une aide pour moi-même. Il faut que, d'abord, je goûte à cette puissance de sa résurrection, que j'en sois comblé, et alors je pourrai accepter de participer à ses souffrances, voire le désirer. Maintenant, nous pouvons mieux comprendre pourquoi dans cette lettre, Paul, d'une part, nous invite sans cesse à nous réjouir dans le Seigneur, et d'autre part, qu'il écrit en pleurant, comme nous l'avons vu au verset 18. Ou ailleurs, chapitre 2, verset 28, il indique qu'il a des sujets de tristesse. Eh bien, se réjouir dans le Seigneur, ça n'est pas éviter toutes les épreuves, toutes les souffrances, et ça n'est pas non plus afficher un perpétuel sourire. La vraie joie, celle qui nous est promise, elle est profonde. Elle est au fondement même de notre être, au-dessous de nos émotions riantes ou affligées. Même dans la nuit de la souffrance, nous percevons tout au fond une lumière perpétuelle qui ne vient pas de nous. Si nous avons rejeté toutes les fausses satisfactions, tout ce qui nous incite à les rechercher, nos peines et nos satisfactions dépendront du Christ et de son action en nous et hors de nous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, ça ne veut pas dire éprouvez toujours de la gaieté, etc. Non, ça veut dire, c'est dans le Seigneur qu'en toutes circonstances, vous devez trouver votre joie. C'est dans le Seigneur que vous devez et que vous pouvez trouver votre joie. Amen.